vous remercier d'être venu. Vous faites une conférence de presse aujourd'hui au titre des avec les quatre organisations de chômeurs, alors qui vont déjà qu'on va déjà nommer ici. Vous avez le MNCP, dont je suis le président national, Marc Desplat, DESPLATS. Voilà, nous sommes donc quelques-uns du MNCP. Vous avez également la PAIS, je ne sais pas si voilà, un camarade de la PAIS, la CGT privée d'emploi, il faut dire, CGT chômeur, CGT privée d'emploi, et AC, ici présent. Voilà. Donc nous sommes les quatre organisations qui regroupent les chômeurs et les précaires dans ce pays, qui s'investissent plus particulièrement là-dessus, par rapport aux syndicats d'une façon générale. La CGT a une section particulière, vous voyez. Et on est à la veille d'une journée de mobilisation sur les retraites. Donc c'est le thème de notre conférence de presse aujourd'hui. Parce que nos adhérents et toutes les personnes qui sont au chômage ou en précarité sont vraiment les plus touchées par le problème des retraites, beaucoup plus que les personnes qui sont en CDI. Et c'est ça qu'on veut montrer et qu'on veut que la dégradation de la situation et les risques pour des nouvelles mesures qui se préparent portera beaucoup plus de conséquences. Les conséquences seront beaucoup plus graves pour les gens au chômage en précarité que pour les gens en CDI. Il faut donc que nous nous impliquions et nous avons la ferme intention de nous impliquer complètement dans ce débat pour que si négociation il y a, mais il n'y a pas eu grand-chose comme négociation, les chômeurs et précaires ne soient pas oubliés, qui ont des problèmes spécifiques. Alors les chômeurs et précaires, c'est qui? C'est combien de personnes? On sait qu'il y a 10% de personnes inscrites au chômage, mais il faudrait ajouter plus de 10% de personnes, beaucoup plus de 10% de personnes qui sont en précarité, forte précarité, ou RSA, ou des emplois précaires, des petits boulots, et qu'il ne leur donnera pas de retraite conséquente. Et c'est tous ces gens-là qu'on veut, qui sont très nombreux et qui passent des fois à la trappe dans toutes les négociations. Les contrats en CDI, qui restent peut-être le socle du contrat de la base, sont quand même, ces dernières années, en diminution. Voilà. Et à monter de la précarité. Alors, il y a également augmentation du chômage des seniors. Entrée de plus en plus tardive des jeunes sur le marché du travail, des parcours qui sont de plus en plus saucissonnés. Je voudrais quand même vous donner un petit peu le résumé de notre plateforme commune. Donc on va distribuer ça à tout le monde. Comme ça, vous aurez un écrit qui va vous aider à suivre. Le problème des gens qui passent d'une caisse à une autre, des polypensionnés, qui, par exemple, sur l'histoire des 25 meilleures années, il y a de moins en moins de gens qui arrivent à avoir 25 bonnes années pour toucher la retraite, et les polypensionnés, ceux qui relèvent de plusieurs caisses, on compte les 25 meilleures années au titre de cette caisse-là. Donc s'ils ont 25 bonnes années, mais qu'ils n'en ont que 10 là, et que des mauvaises, etc., vous voyez, à chaque fois, c'est les gens qui sont en précarité et qui passent d'une caisse à une autre, ont des problèmes pour faire valoir leurs droits. Les gens qui sont au RSA, qui sont non indemnisés, où on ne compte pas pour eux des trimestres. Voilà. Voilà. Et donc nous dénonçons fortement, premièrement, le fait de vouloir augmenter l'âge de départ en retraite, 60 à 62 ans, et de même que le système 65-67. Parce que ça va augmenter fortement les personnes au chômage. Les personnes qui, entre 60 et 62 ans, pouvaient dire enfin, on va pouvoir souffler un peu, on va pouvoir toucher, même si c'est une petite, mais quand on est en ASS à 450 € par mois, on pouvait se dire, ben, il y aurait un peu plus. Et puis au moins, je serais plus tranquille dans ma situation et pas toujours sous le coup de la société qui dit les gens qui ne trouvent pas de chômage, ils ne cherchent pas, etc., etc., toute la stigmatisation des personnes au chômage. C'est pas les vieux, c'est pas les seniors qu'il faut mettre au travail, pour qui il faut trouver des emplois et à qui il faut faire profiter les emplois, c'est surtout aux jeunes qui ont de plus en plus de mal à rentrer dans la vie professionnelle. Par contre, les seniors, l'important c'est qu'ils puissent le plus vite possible arriver à une situation tranquillisée, assurée et toucher une retraite quand c'est possible. Et donc là, le taux de chômage va augmenter du fait de cette mesure. Ça va mettre en plus en difficulté le système d'assurance chômage, parce qu'on fait, c'est un report de finances des caisses de retraite sur les caisses de chômage. Ça ne règle pas le problème du tout. Nous sommes également contre le calcul basé sur les 25 meilleures années, qui est une des pires mesures qui ait été faite ces dernières années contre les personnes en précarité ou au chômage, qui ont énormément de difficultés. Il faut savoir qu'actuellement, quelqu'un qui reprend du travail, ça fait baisser sa retraite. Et ça, je voudrais vous rendre sensible à ça. S'il n'a pas ses 25 meilleures années, s'il en a par exemple une vingtaine de bonnes années, qu'il retrouve un petit boulot, on lui comptera dans cette année-là très peu de travail, et donc on l'intégrera dans ses 25 meilleures années. Une année mauvaise, une année néfaste, qui va faire baisser sa retraite. Un chômeur n'a pas toujours intérêt, s'il pense à sa retraite, à reprendre du travail. Voilà, ça c'est très important à dire. Nous sommes pour un élargissement de l'assiette de cotisation. Au niveau des ressources, on nous dit, on fait peser tous les efforts sur les mêmes. Nous pensons qu'il faut qu'au niveau des entreprises, on élargisse l'assiette de cotisation, qu'elle ne soit pas uniquement sur les salaires, mais sur l'ensemble de la richesse produite par l'entreprise, qui comprend les investissements, qui comprend les actifs qui sont produits et qui sont redistribués aux capitalistes. Et voilà, donc tout ça il faut élargir l'assiette sur l'ensemble, comme vous savez que la valeur ajoutée est composée en trois parties, et pas que ce soit repose que sur les seuls salaires, ce qui permettrait déjà de permettre que les entreprises de main-d'œuvre ne supportent pas tout le poids des retraites, mais que l'ensemble des entreprises, même celles qui sont très automatisées, qui ont très forte valeur ajoutée, participent plus au financement des retraites. Nous voulons qu'il y ait aussi personnalisation des droits. Il faut aller vers des droits pour chaque être humain, indépendamment de son parcours de vie, de sa situation de famille. C'est-à-dire que quelqu'un qui était en forte précarité, qui était au chômage toute sa vie, il est droit aussi à une retraite. Ça veut dire que les cotisations sont mutualisées, d'une part, au niveau des cotisations, dans des caisses communes pour tout le monde, pour en faire profiter tout le monde, même ceux qui n'ont pas pu avoir les années de travail suffisantes. Et voilà. Ensuite, les minima sont très insuffisants. Nous préconisons que les minima de retraite et tous les minima en général et toutes les formes de chômage soient revalorisées très fortement. Le minimum vieillesse actuellement est autour de 650, je crois. L'ASS, la RSA, 450, ce sont des sommes avec lesquelles on ne peut pas vivre, on ne peut pas payer un loyer. Et voilà, nous voulons souligner fortement cette question-là. Et nous voulons que les personnes qui ne cotisent pas, qui ne peuvent pas cotiser parce qu'elles sont en RSA, parce qu'elles sont au chômage non indemnisé, aient droit également, comme tout le monde, à leur trimestre et à donc une retraite. Voilà tout ce que nous préconisons. Voilà, maintenant, ça c'est le général. Si vous voulez, chaque organisation va pouvoir s'exprimer plus particulièrement, parce qu'on a évidemment, comme on est quatre organisations, on peut avoir des sensibilités un petit peu différentes. Voilà. Est-ce qui prend le relais?
Oui. Alors, moi, je veux bien m'exprimer sur deux points qui me paraissent très importants. Un, celui de l'âge. Alors, effectivement, non seulement ça met en difficulté les seniors, mais ça va faire remonter effectivement, très, très, très fortement le taux de chômage. Mais au-delà de ça, c'est la double peine pour les privés d'emploi. Non seulement on a été privé involontairement d'emploi pendant l'âge légal pendant lequel vous pouvez travailler, mais en plus, à sa retraite, on va payer le prix des crises successives dont on n'est pas responsable. Et on va après avoir vécu pauvre, on va mourir pauvre. Et à un moment donné, ça suffit. On s'acharne toujours sur les mêmes. Et c'est pas à la population qui travaille et qui est productive de payer les crises successives d'un système dont nous ne sommes pas responsables, ni les bénéficiaires. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était le fait que certaines indemnisations de chômage sont attribuées au foyer fiscal. Et ça nous semble effectivement très grave, parce que quel est le type de relation qui peut être induit dans un ménage entre une mère et sa fille, dans un foyer où lorsque l'un des deux prend un emploi, l'autre n'a plus droit à une indemnisation quelle qu'elle soit. Quel est le type de dépendance économique qui va faire naître les relations entre les différents membres du groupe familial? Quelle est l'interdépendance? Qu'est-ce que signifie quand l'homme ou la femme donne 20 euros à l'autre pour faire sa semaine? Ça signifie quoi en termes de capacité d'autonomie, en termes de liberté, en termes de choix même de vie? Donc il nous paraît indispensable que quelque indemnisation que ce soit attachée à la personne et non à un foyer fiscal. Nous, on a eu l'exemple il y a quelques années d'une fille qui vivait avec sa mère, et sa mère était à l'époque au RMI, hein, et la fille, on lui a proposé un travail. Si elle avait accepté ce travail, sa mère ne touchait plus rien. Elle a dû refuser cet emploi, qui était de toute façon pas un emploi extrêmement rémunéré, de façon à ce que sa mère ne soit pas dépendante d'elle. Parce qu'elle trouvait ça gênant, quelque part, de priver sa mère de son indemnisation. Voilà, c'est fini pour le moment. Merci.
Excusez-moi, vous pouvez juste me donner votre nom.
Patrick Marquette, CGT privé d'emploi.
Bon, moi, je vais intervenir donc pour l'APES, Thierry Bailly, porte-parole de l'APES. Donc voilà, on est dans une espèce de maelstrom organisé par le pouvoir et puis les patrons qui donc amène de plus en plus de gens à vivre sous le seuil de pauvreté.
Sachant que le seuil de pauvreté est à 910 euros.
Voilà. Hein, il faut savoir que le minimum vieillesse, il est à 700 euros. Et il y a les deux, en 20 ans, je vais vous donner une comparaison quand même qui est importante. C'est que les plus grosses entreprises, donc celles du CAC 40 par exemple, ont vu leurs profits augmenter d'une manière phénoménale en 20 ans. Hein, ça n'a pas de sens, quoi, ça n'a plus de sens. Hein. Alors, en utilisant bien sûr tous les moyens possibles, hein, des localisations, etc. Et depuis 20 ans, en moyenne, il y a 3 400 000 personnes qui sont bénéficiaires tous les ans des minima sociaux. Ça veut dire que les gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux, ce sont des gens qui sont en fin de parcours des allocations chômage. Rappelez-vous, il y a 20 ans, c'était l'allocation chômage, après l'allocation de fin de droit, et puis après l'allocation de solidarité spécifique, qui était un des minima sociaux. Le RMI a été créé par Michel Rocard en 87. C'était bien une bonne raison, parce qu'il commençait à sentir qu'il y avait des gens qui n'avaient plus aucun droit de plus en plus, et donc il fallait quand même réagir. Voilà. Donc, si on additionne, si on fait un ratio de tous ces gens qui, depuis 20 ans, ont perçu et le chômage et à la suite les minima sociaux, 3 400 000 personnes, c'est pas tous les mêmes, mais c'est sûr, toutes ces années-là, ça représente 50% des travailleurs en France. C'est-à-dire que 50% des travailleurs vont vraisemblablement basculer petit à petit dans le minimum vieillesse. 50%. Vous voyez ? C'est un peu plus sérieux que ce qu'on pouvait imaginer. C'est un peu plus grave aussi. Donc, nous à la PES, hein, les revendications, elles sont simples. C'est qu'il n'y ait pas une retraite qui soit en dessous du SMIC revalorisée. Hein, donc, c'est-à-dire 1500 euros par mois, net. Hein, parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec un salaire inférieur à 1500 euros par mois? On est obligé de supprimer des postes de vie, soit les loisirs, soit la culture, soit plein de choses. Hein. Et en faisant très attention, hein, donc, à ces achats. Donc nous, on intervient par rapport aux besoins des gens. Hein. On intervient pas par rapport à ce qui est possible de faire. Mais c'est possible de le faire, de toute façon. Hein. Et là, ça demande donc, des revendications qui sont les mêmes que nos camarades des autres associations de chômeurs, et on demande donc que la retraite soit donc, qu'il n'y ait plus un minima sociaux, hein, qui n'existe plus, qu'il y ait des allocations décentes pour vivre décemment, hein, qu'il y ait une orientation vers un emploi correctement rémunéré, hein, qui est un travail politique là-dessus, et qu'il y ait des retraites qui correspondent donc aux besoins des gens, c'est-à-dire 1500 francs par mois.
Euros, pardon.
Ouais, c'est,
bonjour, là,
c'est 1500 francs par mois.
L'association est ancienne, c'est pour ça.
Oui, c'est ça, ouais. Elle est ancienne.
Elle est ancienne aussi.
Mais toujours debout.
J'ai juste okay. Une petite question à poser, c'est-à-dire que tu expliques que la moitié des salariés risquent de basculer au minimum vieillesse,
ouais.
C'est ça,
ouais.
Actuellement, il y a 7% de retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc dedans une partie qui vivent au minima sociaux. Qu'est-ce qui te permet de projeter, de passer de 7% à 50% et dans combien de temps, enfin...
Bah, c'est graduel, hein, au fur et à mesure que les gens vont basculer à la retraite. Alors, ce qu'il faut aussi ne pas... Bon, alors, pour ces gens-là, par exemple, les 25 meilleures années, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, puisque ça fait des années... Nous, on a des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont au RMI. Il y a des gens qui perçoivent le RMI depuis 15 ans. Parce que plus on a d'ancienneté dans le chômage et plus on a de difficultés à retrouver du travail, plus on est disqualifié par rapport à son métier... Et il y a des métiers qui n'existent plus, donc c'est même pas la peine. Et pour accéder à des formations qui permettent de basculer vers de nouvelles professions, c'est très difficile. C'est très compliqué. Donc voilà.
Ok.
Alors, je voulais rajouter une chose en ce qui concerne la jeunesse. Ils nous font une montagne qui accouche d'une souris avec le RSA pour les jeunes, parce que quand on a travaillé 2 ans, on touche des allocations chômage.
Et si je puis ajouter quelque chose, c'est il y avait un chiffre annoncé de 160 000 personnes, et en fait, compte tenu des critères, c'est-à-dire d'avoir travaillé au moins 2 ans, ça touchera 16 000 personnes et pas du tout 160 000.
Ouais, officiellement, 16 000. Donc, c'est rien. Donc, nous revendiquons aussi une allocation d'autonomie pour les jeunes dès la sortie du circuit scolaire. Et qui ne soit pas indexée sur, évidemment, le quotient familial, le revenu familial, que ce soit une allocation d'autonomie.
Et substantiel.
Voilà.
Donc Alain Marcu pour les porte-parole de AC. La retraite, c'est un contrat social depuis 1945. C'est du temps de travail, c'est-à-dire du temps contraint. Et sous le contrat, il y a du temps libre. C'est la retraite. Il est évident que le fonctionnement des entreprises aujourd'hui fait que ils font beaucoup plus de bénéfices. Le produit intérieur brut augmente, la productivité augmente. Je reprends les échos assez souvent là-dessus, ça va très bien pour nous, enfin en tout cas pour les entreprises. Il y a beaucoup de délocalisation et donc de moins en moins de charges salariales. Ça fait partie de ce qu'on appelle les tableaux de bord en économie, qu'on apprend dans les facultés, c'est-à-dire que quand on vire 5 salariés, on a gagné grosso modo 150 000 euros que l'on peut remettre dans l'actionnariat. Deuxième point, l'explosion des revenus financiers par rapport à l'assiette salariale a augmenté de 17 000% depuis 1949. Ce qui veut dire que ces revenus financiers sont sortis des contributions sociales. Et j'insiste sur le terme contribution sociale, ce ne sont pas des charges, c'est une contribution au fonctionnement de la société et des individus qui y sont des citoyens. Actuellement, quand il n'y a pas une société, doit assurer le fonctionnement. Et c'est une question de principe. Le fonctionnement et la survie, la vie des citoyens qui y sont. Les critères aujourd'hui qui sont en projet, on pourrait les personnaliser avec le gouvernement Sarkozy-Fillon-Woerth, mais simplement, il faut le savoir, ça fait partie des recommandations du traité de Lisbonne qui a été mis en forme, qui a été décidé en 2001 par la réunion des gouvernements, des chefs d'État européens et qui vient d'être mise en forme, et en tout cas plus précisément, sous la forme d'un livre vert issu de l'Union européenne. Donc ce n'est pas seulement un problème français. Il s'agit de rentrer dans des critères où, en fin de compte, on va laisser, alors là je suis beaucoup plus ferme, donc on va laisser crever les gens de manière à ce que de toute façon, tout au long de leur vie, ils aillent faire des petits boulots pour pouvoir survivre. C'est donc dans un vaste projet que sont noyés, et peu de gens en parlent, tout ce qui est chômeur, précaire, jeunes en recherche d'emploi ou travaillant avec des CDD, tous ceux qui vont arriver qui sont en fin de droit, ceux qui passent des périodes au RMI, etc. À l'arrivée, le réveil sera effectivement ce que mes collègues et mes copains ont dit. Et là, nous rentrons, nous, associations de lutte contre le chômage et contre les conséquences du chômage, nous rentrons vraiment au front. On s'attaque là réellement à la répartition des richesses dans nos revendications. Il est justement l'individualisation, on parlait de citoyens tout à l'heure, chaque individu doit avoir, la société doit lui donner les moyens d'exister, et il est inadmissible qu'il y ait une telle différence entre les revenus financiers qui ne sont pas inclus dans les contributions sociales. C'est actuellement le mécanisme qui est déjà mis doucement en place et qui est au cœur du projet. Ce qui veut dire que, comme l'ont dit, ça a été dit tout à l'heure, on peut retrouver effectivement pas mal de chiffres, tous les gens qui sont au RMI et à SA, mais on oublie aussi d'autres catégories, comme le chômage partiel. On oublie également les gens qui sont pris à la gorge et qui se mettent auto-entrepreneurs. Je rappelle qu'on estime, alors, les chiffres, mais grosso modo, 150 000 entrepreneurs qui gagnent moins de 450 euros par mois. Moyennant, en plus, il va falloir qu'ils payent leurs charges. Donc c'est complètement précaire, et au bout d'un an ou deux, de toute façon, ils déposent comme beaucoup. Donc voilà, on n'est pas du tout qu'il s'agit d'un projet global de société au niveau européen. On voit très bien ce qui se passe en Grèce, on voit ce qui se passe en Espagne, on voit ce qui se passe en Allemagne avec le plan Hartz et la baisse des cotisations de retraite, et j'en passe, c'est des meilleurs. Le but et le projet de société qu'il y a derrière, c'est que plus les gens sont précaires, plus ils sont corvéables à merci. Et ça, c'est un regard qui est plus politique. Maintenant, nous, on est là pour défendre en tout cas et porter l'attention sur ce qui se passe au niveau des conséquences pour les chômeurs précaires, sachant que la précarité... Alors, il est difficile d'avoir des chiffres précis. On en parlait tout à l'heure entre nous. On estime, on va dire quoi, 70-60% des contrats sont en CDI, ce qui laisse quand même entre 25 et 30% de la population en contrat précaire. Comme par hasard, bien entendu, c'est beaucoup les femmes, les jeunes et les gens qui ont plus de 50 ans. Donc, il s'agit, quand on a de tels phénomènes, ça ne peut être que des projets pensés. Donc, on ne croit pas du tout qu'il s'agisse de quelque chose qui tombe du ciel.
Alors, comme vous l'avez compris, c'est un appel à participer aux manifestations du 7 septembre. Que tous les chômeurs et précaires n'hésitent pas à y aller, nous rejoignent nos organisations, se rendent compte que si nous sommes nombreux, nous sommes plus forts. Au niveau du MNCP, nous avons décidé de regrouper nos associations de l'Est et du Nord et de Parisienne sur un pôle bien précis, parce que nous allons faire des déplacements. On a choisi Bar-le-Duc parce que c'est un endroit où, d'abord, qui n'est pas trop loin des autres, mais aussi où on a créé une nouvelle association, ça leur permet de démarrer, etc. Donc on aura un point fort de participation du MNCP sur Bar-le-Duc, mais dans tous les autres endroits, bon, il faut que, et partout, il faut que tout le monde, les chômeurs et précaires, rejoignent les organisations et participent à cette mobilisation.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que cette journée du 7 n'est pas seulement la journée pour les retraites. Elle s'appelle salaire, emploi, retraite. Les trois sont à articuler ensemble. Il est évident que les revendications sur les retraites, c'est vrai, on l'a porté très fort à la CGT, mais ont trouvé une résonance chez les salariés actifs ou non, au niveau de l'emploi et au niveau des salaires. Jamais les entreprises, depuis le début de la crise, n'ont fait de bénéfices aussi importants et elles vont continuer à créer du chômage partiel. J'en veux pour exemple les usines automobiles qui sont dans mon département, les Yvelines, qui ont augmenté le taux de productivité des chaînes de façon importante et vont quand même, à la fin de l'année, ils ont prévenu le personnel, il y aura un chômage partiel de 2 mois. Et le nombre de véhicules sortis par chaîne est égal à celui qui était sorti et même supérieur avant la crise. C'est donc bien un système pensé et réfléchi de façon à introduire la précarité dans le monde du salariat. Si aujourd'hui 80% des salariés sont en contrat de titre juridique en France, il ne faut pas oublier que que les conventions européennes sont passées. Que la Pologne, c'est l'inverse, c'est 80% des salariés sont en contrat de dépendance commerciale, c'est-à-dire d'auto-entrepreneurs, et qu'aujourd'hui, il y a cette concurrence qui arrive pour contourner complètement le code du travail et arriver à amener une précarité dans le monde du travail, en France et dans les pays européens. C'est-à-dire que c'est bien un nivellement par le bas qui se fait, et on en voit les conséquences tous les jours. Et dans cette histoire, il y a des gens qui vont en mourir. J'en veux pour preuve, effectivement, les retraités qui vont arriver, qui seront effectivement à hauteur de 50%, et pour arriver à ce chiffre, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder la courbe de l'ASS. Elle descend en continu. Il devient de plus en plus difficile d'accéder à l'ASS, c'est-à-dire qu'on n'a plus les 5 ans permettant d'accéder à l'ASS. Et on passe de l'ARE, allocation de retour à l'emploi, directement au minima social. Et ça, c'est bien une démonstration que les salariés qui vont arriver à la retraite seront des retraités, des sous-retraités, et qui ne pourront pas avoir les moyens de se soigner avec le démantèlement complet qui est en train de se faire de la sécurité sociale. Voilà. Donc le 7, c'est les retraites, mais bien entendu, les salaires et les emplois.
Merci. Tu voulais qu'on t'applaudisse peut-être ? Il ne faut pas rêver non plus.
Non, après on peut en dire.
J'ai une question pratique parce que je vais publier un article sur cette mobilisation, donc je vais un peu indiquer à nos lecteurs comment procéder, comment vous rejoindre.
Excuse-moi, on n'a pas dit une chose. On a décidé, bien entendu, excusez-moi, parce que ça ne s'est pas dit, le 7, à part effectivement l'UNCP qui a choisi de défiler, de manifester à un endroit bien précis, ce sera indifférent une manifestation.
Une manifestation
unitaire des trois orgas restants sur le terrain, puisqu'il n'y aura plus que.
Des quatre orgas en province, de toute façon.
Voilà, quatre. Mais c'est unitaire, et là, c'est un petit problème géographique qui fait que les camarades du MNCP ne sont pas là. Mais ce sera.
Il en restera.
Il en aura avec des drapeaux.
Sur la tête de la Mirabelle.
Bon, ce sera une manifestation unitaire en ce qui concerne les organisations historiques de défense des premiers d'enfants.
Mais où ? C'est-à-dire que vous donnez rendez-vous à un endroit particulier ?
Oui, on se donne rendez-vous à République. Tu sais, c'est très discret, on arrive à se retrouver, il n'y a pas de monde.
Pour ce qui est de Paris, mais il y aura
de Paris.
La manifestation n'est pas centralisée sur Paris, donc on va avoir des manifestations un peu partout dans les régions. Dans la mesure du possible, on mettra ça sur nos sites internet, je pense. Quand on a les lieux de rendez-vous, ça va être c'est plus simple.
D'accord. Ok. Oui, parce que bon, voilà, je dirais tous les chômeurs de province, oui, peuvent, si ça vous se retrouvez, si dans le temps.
Alors, déjà par une précision, donc je pense que les camarades d'AC seront d'accord, les copains de la CGT sont d'accord. Nous, on a un point bien précis de rendez-vous, c'est devant Habitat, à République.
Les magasins Habitat.
À quelle heure ?
Entre 14h30.
De toute façon, les camionnettes et tout se mettent en place vers midi.
Oui.
Voilà. Après, plus l'heure avance et plus il est difficile de s'en.
Très bien.
Ouais, il faut y être assez tôt.
Ok, ça marche.
Alors, il y a effectivement un point, je l'ai envoyé chez nous, je ne sais pas si vous l'avez reçu aussi, mais la liste de toutes les manifestations, je ne sais plus combien il y en a, enfin bon, c'est énorme, quoi. Il y en a dans toutes les villes de France. Donc nous, on a déjà tous fait partir, je pense, à nos collectifs, le fait que les quatre associations de chômeurs bossent ensemble sur le texte que vous avez devant vous. C'est pas la première fois, ça va faire maintenant presque un an et demi qu'on travaille régulièrement ensemble, tous les quatre. Sur ce front du chômage, il y a bien sûr d'autres associations. J'ai vu par exemple que Génération Précaire, qui sont les jeunes qui sortent d'école et qui sont stagiaires, corvéables à Merci aussi, ont été plusieurs fois interviewés, sont peu sensibles à cet aspect de la retraite. On se rappelle quand on avait effectivement 20 ans, 25 ans et qu'on commençait à bosser. Mais néanmoins, ils sont fortement agités et puis ils ont ça sur le coin de l'œil. C'est pas leur préoccupation principale pour aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'un des aspects qui fait que on a eu besoin de parler des conférences de presse, c'est que la précarité touche énormément les jeunes et les femmes, hein, en majorité. Il se trouve que quand la presse nous demande est-ce que vous avez des jeunes de moins de 25 ans qui voudraient bien témoigner, on a de gros soucis parce qu'ils n'ont pas du tout, ils sont pas du tout dans l'action collective, ils ne sont pas dupes du tout de ce qui leur convenait, mais cette ambiance fataliste de tout ce qu'ils subissent fait qu'ils sont très peu mobilisés. Et pourtant, ça fait partie, c'est leur. J'oserais dire que la retraite fait partie de l'avenir. Donc,
excuse-moi. Il faut absolument qu'on parle du 4 décembre. C'est le moment.
Ah oui, c'est le moment ou jamais.
Donc, depuis maintenant, ça va faire la sixième, la huitième.
Ça va être la huitième.
Huitième édition. Tous les ans, le premier samedi de décembre, les organisations de chômeurs, plus ceux qui les soutiennent, plus ou moins, et c'est difficile, mais les organisations de chômeurs organisent une manifestation tous le premier samedi de décembre. Donc contre le chômage, la précarité et la misère.
Pour la justice sociale.
Et pour la justice sociale. Donc sur la base de nos revendications communes. Et différentes. Il n'y a pas de problème. Donc cette année, ce sera le samedi 4 décembre. Et le point de départ sera. Si on veut, comme d'habitude, place de la Villette
à préciser
cette manifestation, c'est la manifestation organisée par les chômeurs.
il se passe tellement de choses actuellement sur le plan social qu'on ne peut pas faire trop de plans sur la comète, sur ce qui peut se passer. Vous savez que sur le plan des retraites, notamment, bon, effectivement, on parle en tant qu'organisation sur de défense des chômeurs précaires. Donc c'est plus notre angle d'approche de cette conférence de presse. Maintenant, on est tout à fait présent également avec le collectif qui prépare les manifestations nationales du 7. Et également, il y aura une prise de parole de quelques minutes au grand meeting de Montreuil le 8. Sur lequel les organisations de chômeurs, alors on n'est pas très calés, mais il y aura une intervention appuyant sur le fait, sur justement cet aspect-là. Puisque c'est vrai que historiquement, les organisations les plus fortes, enfin en tout cas les plus mobilisantes, sont celles des travailleurs, au niveau des syndicats, au niveau des principes, c'est au niveau des politiques, c'est évident, mais cet aspect. Qui en rajoute une couche, je veux dire, qui est encore pire, c'est que quand tout le monde va se réveiller après une vie une vie d'actif précaire, là, ce sera carrément catastrophique. Donc, on appuie, c'est notre rôle, c'est d'appuyer en disant, mais il y a même ça en plus, il y en a encore une couche, quoi, si vous voulez. Et également dans notre analyse, puisqu'on sait qu'il y a l'augmentation de la précarité. C'est l'un des aspects par rapport à la retraite, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, mais que tout est fait pour qu'il y ait des minima sociaux à peine de survie, pour que tout le monde soit, pour que la précarité soit institutionnalisée. Grosso modo, ça payera pas, les indemnités, quelles qu'elles soient, et sous la forme qu'elles prennent, ne vont pas payer le loyer, mais elles sont suffisantes pour prendre un ticket de métro et aller bosser quelques heures par jour. C'est ce genre de système qui est en train de fait aboutir, le système aboutit à cela. C'est-à-dire la précarisation complète des actifs, et ceci dans toute l'Europe.
On ne vous donne pas le moral, peut-être.
Alors c'est oui, c'est pas le truc, on a le moral après, non?
Non, mais le matin, quand on se réveille, on est en colère. Il suffit d'écouter les informations, ça nous met en colère, ça remet la tête.
Bon, maintenant, on est tous à votre disposition si vous avez des questions particulières sur l'art.
Vous avez deux publications sur les retraites qui peuvent. Enfin, je pense que vous êtes assez au courant. Il y a. Alors, je dis ça parce qu'ils ne sont pas trop marqués, puis ils ne sont pas trop mal faits. Vous avez Attac et la Fondation Compernic qui a fait ça. Les retraites, l'heure de vérité, sur lesquels il y a un démontage des retraites, et sur les quelques chiffres et mises en perspective, vous avez créé l'économie politique, qui est issu du CPC qui fait ça, je crois. Enfin bon, toujours est-il qu'il est bien foutu dans le sens où il y avait quelques graphiques dont je me suis servi dans l'intervention qu'il y avait, qui montre bien. Les évolutions économiques. Alors, vous avez d'autres sources. Hein. Il y a notamment la DARES, les fiches de la DARES sur la part entre chômeurs de catégorie A, B, C, D, et ainsi que ils ont des tableaux assez intéressants pour montrer les tendances. Des fois, les tableaux sont un peu courts. Ils sont sur un an ou deux, mais vous avez aussi quelques tableaux sur 10, 15 ans. Qui permettent de bien montrer les tendances et d'étayer ce que l'on vient de dire, ce qui est toujours lourd à dire, et en tout cas les notes à prendre sur ce genre de chiffres quand on balance des tartines de chiffres. Voilà.
Tu touches combien? Ouais, t'es sponsorisé.
Hein?
T'es sponsorisé?
Non, mais je prends là où c'est pas mauvais. Et surtout là où j'arrive à lire, parce que sinon c'est un peu trop.
On a fait le tour du 7, après on a des. Il faut quelques idées très concises sur le 7. Ouais, on a surtout, ouais, parlé surtout, du 4 parce que c'était important.
Surtout, je crois que ce qui est important, c'est de bien noter que les chômeurs tiennent à se mobiliser sur la question des retraites, dans le cas, parce qu'on parle très peu de cette question des chômeurs et précaires. Ouais. Et on le voit dans les appels qui ont été menés jusqu'à maintenant, cette question du chômage et de la précarité est très peu mise en avant. Donc c'était bien notre rôle de faire quelque chose de spécifique sur cette question-là. Et de lier cette question du chômage, de la précarité et des retraites. Le message principal, il se situe surtout là, est de dire que nos organisations tiennent à se mobiliser sur cette question.
un ancien à votre dispositif pour les questions.
J'ai juste une question parce que la fenêtre d'ouverture entre guillemets de négociation, de dialogue avec le gouvernement semble quand même assez fermée. En mettant les choses au pire, si la mobilisation mardi prochain n'était pas ce que vous pouvez espérer qu'elle soit, qu'est-ce que vous envisagez de faire d'autre, éventuellement?
Acheter des armes.
Il n'y a pas remonté sur l'Elysée. Non, mais il est évident qu'on continuera à se battre. Parce qu'on pense essentiellement que ces mesures sont injustes, qu'elles ne correspondent pas aux besoins, et qu'il est très important de correspondre aux besoins exprimés des salariés, et que là, pour le coup, on est réellement dans les besoins exprimés. Donc c'est pas... Même s'ils arrivaient à le faire passer à l'arrache, déjà, des lois qui sont passées qui n'ont jamais trouvé leur décret d'application, il y en a plein. Deux, il y a des lois avec décret qui n'ont jamais été appliquées. Il est évident que là, qu'on arrive à des mobilisations de 2 millions de personnes, 2 millions de salariés, avec des grèves dans les entreprises, avec un mouvement social réel sur l'ensemble du territoire, si le gouvernement ne veut pas voir... après, il paiera les conséquences. C'est clair et net, ça. Ils peuvent continuer à pouvoir aller jusqu'au bout des mandats qu'ils ont et faire passer ce qu'ils veulent. À un moment donné, c'est le peuple et la démocratie qui fera la différence. Et ça, ils le savent. Et ils le savent très bien.
C'est pour ça que, en deuxième étape, et en dehors de ce qui nous amène aujourd'hui, vous allez certainement observer l'état de la mobilisation du 7. Suivant l'état de la mobilisation, c'est l'ambiance du meeting du 8 qui se trouve en région parisienne à Montreuil, en fin d'après-midi, donc vers 19h, relatera, on saura un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'ores et déjà, on est tous partie prenante du collectif national, enfin, ou dans les négociations du collectif national contre le projet des retraites. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ce que ça va donner. On ne peut pas dire non plus, et très franchement, il n'est pas impossible que le gouvernement... il appelle ça des consultations, vous avez remarqué, ce n'est pas des négociations. Donc on sait très bien que le 7, grosso modo, il nous a déjà préparé à ne pas le faire, à ne pas prendre en compte la pénibilité. Alors vous imaginez des chômeurs qui sont précaires et qui sont en fin de compte pas des milliers dans la rue en tant que tel. Ça ne faudra pas beaucoup nous écouter. Donc on est vraiment à l'affût, on est actifs, on est tous en liaison, et toutes les organisations sont de toute façon en liaison permanente. Il y a une réunion encore hier soir de préparation, et il y en aura d'autres derrière. Dans tous les départements, il y a des collectifs retraite dans lesquels partout il y a des chômeurs, et ben ils vont apporter la même parole qu'on a vu ce matin, chacun avec ses petits moyens. On ne sait pas où ça va aller. Je vous rassure, il semblerait que le gouvernement non plus. Oui, donc de toute façon, nous on est sous le pied de guerre et tous les matins on est en colère.
Oui, ce que je voudrais quand même dire aussi, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais. Toutes nos associations accompagnent les gens et défendent leurs droits au quotidien et organisent des initiatives et des luttes selon les circonstances et selon les problématiques qui sont posées tout au long de l'année. Hein, des occupations, des manifestations, les organisations de chômeurs, on organise tout au long de l'année. Hein. Donc, si vous voulez, le rôle qu'on a aussi, qui je pense est vraiment prépondérant, c'est le fait d'informer, de tenir au courant de cette problématique. Hein. De dire, attendez, vous avez des millions de personnes qui vivent dans la misère, mais c'est quoi? Parce que tout le monde le dit, oh là là, il y a de la misère, c'est terrible, c'est ça. Ça veut dire quoi, vivre dans la misère? Vous voyez, quand on est au RMI ou au RSA maintenant et qu'on perçoit 450 euros par mois, comment peut-on faire pour pouvoir subsister avec ça? C'est faramineux, quoi. Quand on y réfléchit bien, il y a des gens, 450 euros, ils les balancent, et beaucoup plus même dans une soirée, quoi. Vous avez des gens qui balancent des... dizaines de millions d'euros dans une soirée. Et à l'autre bout, il y a des gens qui crèvent. Et nous, notre quotidien, c'est les gens qui crèvent. Vous voyez ? Donc, on est... Je parle pour la peste, mais je pense que les camarades qui sont là autour ont le même sentiment, c'est qu'on est complètement révoltés de ce qu'on peut voir subir, de ce que les gens subissent et vivent. Hein, les expulsions, les coupures d'énergie, les huissiers en permanence qui viennent sonner à la porte. Dans le temps, il y avait une dynamique politique beaucoup plus importante il y a 20 ans qui interdisait tout ça. Mais le mouvement politique de gauche, je veux dire très radical, s'est un petit peu effrité et malheureusement a laissé un vide. On le voit bien par exemple avec dans les banlieues. Dans les banlieues, il y a un effritement de la vie sociale catastrophique. Déjà qui vire tout, les postes, les machins, tout le service public se tire. Dans les quartiers, il n'y a plus rien. Mais en plus de ça, les gens ne savent plus vers qui se retourner. Donc il y a un désarroi gigantesque. Et là, on se dirige vers une société qui, si l'ensemble du mouvement social, le plus radical, et puis peut-être les autres, hein, ça me ferait plaisir aussi, ne bouge pas, ça va être un désarroi qui va frapper 50% de la population.
Pour compléter ce que tu dis et peut-être répondre en partie à votre question, je pense qu'on peut dire que au-delà de l'importance de la mobilisation générale de l'ensemble des citoyens sur la question des retraites le 7 septembre, notre objectif d'organisation de chômeurs, c'est aussi de faire prendre davantage conscience aux organisations de salariés, aux grandes confédérations syndicales, de la spécificité des besoins des chômeurs et précaires en termes de revenus d'existence, de minima sociaux, de garanties multiples. On peut le comprendre, mais c'est notre job à nous, organisation de chômeurs, d'être présent et visible dans cette manifestation pour que l'ensemble des autres organisations salariées, les grandes confédérations, prennent conscience qu'il n'y a pas que des CDI à défendre. Il y a un double objectif. Il y a l'importance de la réussite de cette manifestation sur la question des retraites, mais pour nous, davantage de prise en compte par les confédérations syndicales de la spécificité des problèmes des chômeurs et des précaires.
Et je dirais plus largement que les confédérations, que les syndicats.
Il y a aussi
Nous non plus n'en parle pas. Hein.
Ouais. Se contenter de dire la retraite à 60 ans, c'est complètement insuffisant.
La retraite à 60 ans n'existe plus. De fait, pour 50% de la population, sur tous ceux qui vont basculer dans la retraite, il y en aura un sur deux qui ne pourra pas parce qu'il n'aura pas les 40
ans. Vous
vous rendez compte, 40 années de travail, ce que ça représente dans une société de précariat. Ça, c'est fou, quoi. On se bat pour la retraite, la retraite à 60 ans, mais sur la base des 40 années de travail, ça n'existe plus. Parce qu'il n'y a pas de cotisation. Quand on est au chômage, on cotise qu'à la retraite complémentaire, on cotise pas à la retraite du régime général. Quand on est au RMI, on cotise plus. Quand on est en ASS, on cotise plus. Et avant, l'API, l'allocation parent isolé, dont bénéficiaient c'était principalement les femmes qui la touchaient, parce que les mecs, ils se cassent.
C'est l'allocation parent isolé. Hein.
C'était 85 ben ouais. Non mais si, c'est vrai, quoi. La plupart, c'est les femmes qui sont les premières victimes. Il y a 85% des bénéficiaires de l'API, c'est des femmes.
98%.
Combien ?
98%.
Ben en plus,
il y a 2% ou à 15.
Il y a 13% de mecs qui sont tirés encore. On est con. Les enfoirés.
Ok.
Ouais, le 8 mars, on sera aussi.
On va faire un peu le tour.
Ouais. Donc, je crois que c'est bien. Il y a peut-être d'autres
questions. Moi qui est dans la On vous remercie. Bon.
Jacques-Henri Vandal, je suis au MNCP.
En tout cas, on vous remercie. Vous êtes venus.
Voilà.